Chapitre 11 Où le bossu se fait inviter au bal de la cour. Gonzague demeura un instant immobile à regarder sa femme qui traversait la galerie pour rentrer dans son appartement. « C'est une résurrection, » pensa-t-il. « J'ai pourtant bien joué cette grande partie. Pourquoi l'ai-je perdue ? » Évidemment, elle avait un dessous de carte. Gonzague, vous n'avez pas tout vu. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il se prit à parcourir la chambre à grands pas. En tout cas, poursuivit-il, nous n'avons pas une minute à perdre. Que veut-elle faire au bal du Palais Royal ? Parler à monsieur le régent ? Évidemment, elle sait où est sa fille. Et moi aussi, je le sais, s'interrompit-il en ouvrant ses tablettes. En ceci, du moins, le hasard m'a servi. Il frappa sur un timbre et dit au domestique qui accourut. « Monsieur de Pérolles, qu'on m'envoie sur le champ Monsieur de Pérolles !» Le domestique sortit. Gonzague reprit sa promenade solitaire. En revenant à sa première pensée, il dit. « Elle a un auxiliaire nouveau. Quelqu'un est caché derrière la toile. »« Prince !» s'écria Pérolles en entrant. « Je puis enfin vous parler. Mauvaise nouvelle !» En s'en allant, le cardinal de Bissy disait aux commissaires royaux « Il y a là-dessous quelques mystères d'iniquité. »« Laisse dire le cardinal, » fit Gonzague. « Dona Cruz est en pleine révolte. On lui a fait jouer, dit-elle, un rôle indigne. Elle veut quitter Paris. »« Laisse faire Dona Cruz, et tâche de m'écouter. »« Pas avant de vous avoir appris ce qui se passe. Lagardère est à Paris. »« Bah, je m'en doutais. Depuis quand ?» Depuis hier, pour le moins. La princesse a dû le voir, pensa Gonzague. Puis il ajouta. Comment sais-tu cela ? Pérolles baissa la voix et répondit. Saldagne et Faenza sont morts. Manifestement, monsieur de Gonzague ne s'attendait point à cela. Les muscles de sa face tressaillirent et il eut comme un éblouissement. Ce fut l'affaire d'une seconde. Quand Pérolles releva les yeux sur lui, il était remis déjà. « Deux d'un coup » fit-il. « C'est le diable que cet homme-là !» Pérolles tremblait. « Et où a-t-on retrouvé leur cadavre ?» demanda Gonzague. « Dans la ruelle qui longe le jardin de votre petite maison. Ensemble ?» Saldagne contre la porte, Faenza à 15 pas de là. Saldagne est mort d'un coup de pointe. « Là, n'est-ce pas ?» fit Gonzague en plaçant son doigt entre ses deux sourcils. Pérolles fit le même geste et répéta. « Là !» Faenza est tombé frappé à la même place et du même coup. « Et pas d'autres blessures ?»« Pas d'autres. La botte de Nevers est toujours mortelle. » Gonzague disposa les dentelles de son jabot devant une glace. « C'est bien » dit-il. Monsieur de Lagardère se fait inscrire 2 fois à ma porte. Je suis content qu'il soit à Paris. Nous allons le faire pendre. La corde qui étranglera celui-là, commença Pérolles, n'est pas encore filée, n'est-ce pas ? Je crois que si. Tudieu ! Pense donc, ami Pérolles. Il est grand temps. Nous ne sommes plus que 4. Oui, dit le factotum en frissonnant. Il est grand temps. 2 bouchers. Reprit Gonzague en rebouclant son ceinturon. « Nous deux d'un coup, de l'autre, ces 2 pauvres diables. »« Cocardas et Passepoil ?» interrompit Pérolles. « Ils ont peur de Lagardère. »« Ils sont donc comme toi. »« C'est égal, nous n'avons pas le choix. Va me les chercher. Va !» Monsieur de Pérolles se dirigea vers l'office. Gonzague pensait. « Je disais bien qu'il fallait agir. » Agir tout de suite. Voici une nuit qui verra d'étranges choses. Et vite, dit Pérolles en arrivant à l'office. Monseigneur a besoin de vous. Cocardas et Passepoil avaient dîné depuis midi jusqu'à la brune. C'étaient 2 héroïques estomacs. Cocardas était rouge comme le restant du vin oublié dans son verre. Passepoil avait le teint tout blême. La bouteille produit ce double résultat, suivant le tempérament des preneurs. mais au point de vue des oreilles, le vin n'a pas deux manières d'agir. Cocardas et Passepoil n'étaient pas plus endurants l'un que l'autre après boire. D'ailleurs, le temps d'être humble était passé. On les avait habillés de neuf, de la tête aux pieds. Ils avaient de superbes bottes de rencontre et des feutres qui n'avaient été retapés chacun que trois fois. Les chausses et les pourpoints étaient dignes de ces brillants accessoires.
« Et donc, mon bon, » fit Cocardas, « je crois que ce maraud, c'est à nous qu'il s'adresse. »
« Si je pensais que ce faquin, » riposta le tendre amable en saisissant une cruche à deux mains.
« Sois calme, ma caillou, » reprit le Gascon. « Je te le donne, mais bagasse ne casse pas la faïence. »
Il avait pris Monsieur de Pérolles par une oreille et l'avait envoyé pirouettant à Passepoil. Passepoil le saisit par l'autre oreille et le renvoya à son ancien patron. Monsieur de Pérolles fit ainsi deux ou trois fois le voyage, puis Cocardas Junior lui dit avec cette gravité de casseur d'assiettes.
« Mon doux ami, vous avez oublié un instant que vous aviez affaire à des gentilshommes. Tâchez dorénavant de vous en souvenir. »
« Voilà !» appuya le gros Normand, selon son ancienne habitude. Puis tous deux se levèrent, tandis que Monsieur de Pérolles réparait de son mieux les désordres de sa toilette.
« Les deux coquins sont ivres » grommela-t-il. « Et donc ?» fit Cocardas. « Je crois que le péquer a parlé. »«
J'en ai comme une vague idée, » repartit Passepoil. Ils s'avancèrent tous deux, l'un à droite, l'autre à gauche, pour appréhender de nouveau le factotum aux oreilles. Mais celui-ci prit la fuite prudemment et rejoignit Gonzague sans se vanter de sa mésaventure. Gonzague lui ordonna de ne point parler à ses braves amis de la fin malheureuse de Saldagne et de Faenza. Cela était superflu. Monsieur de Pérolles n'avait aucune envie de lier conversation avec Cocardas et Passepoil. On les vit arriver l'instant d'après, annoncés par un terrible bruit de ferraille. Ils avaient le feutre à la diable, les chausses débraillées, du vin tout le long de la chemise. Bref, une belle et bonne tenue de coupe-jarret. Ils entrèrent en se pavanant, le manteau retroussé par l'épée. Cocardas toujours superbe, Passepoil toujours gauche et irréprochable de laideur.
« Salut, mon bon, » dit le Gascon, « et remercie mon seigneur. »«
Assez, » fit Gonzague en les regardant de travers. Ils restèrent aussitôt immobiles. Avec ces vaillants, l'homme qui paye peut tout se permettre.
« Êtes-vous ferme sur vos jambes ?» demanda Gonzague.
« J'ai bu seulement un verre de vin à la santé de monseigneur, » répondit effrontément Cocardas. « Capé des bioux, pour la sobriété, je ne connais pas mon pareil. »«
Il dit vrai, monseigneur, » prononça timidement Passepoil, « car je le surpasse. Je n'ai bu que de l'eau rougie. »
« Mon bon, » fit Cocardas en le regardant sévèrement, « tu as bu comme moi, ni plus ni moins. Asse pas pur, je t'engage à ne jamais fausser la vérité devant moi. Le mensonge me rend malade. »
« Vos rapières sont-elles toujours bonnes ?» demanda encore Gonzague.
« Meilleures, » reprit le Gascon.
« Eh bien au service de monseigneur, » ajouta le Normand qui fit la révérence.
« C'est bon, » dit Gonzague.
Et il tourna le dos, tandis que nos deux amis le saluaient par derrière.
« C'est un coquin !» murmura Cocardas. « Il sait parler aux hommes d'épée !»
Gonzague avait fait signe à Pérolles d'approcher. Tous deux étaient remontés jusqu'au fond de la salle, près de la porte de sortie. Gonzague venait de déchirer la page de ses tablettes, où il avait écrit les renseignements donnés par Dona Cruz. Au moment où il remettait ce papier au factotum, le visage hétéroclite du bossu se montra derrière les battants de la porte entrebâillée. Personne ne le voyait, et il le savait bien, car ses yeux brillaient d'une intelligence extraordinaire. Toute sa physionomie était changée d'aspect. À la vue de Gonzague et de son âme damnée causant à deux pas de lui, le bossu se rejeta vivement en arrière, puis il mit son oreille à l'ouverture de la porte. Voici ce que d'abord il entendit. Pérolles épelait péniblement les mots tracés au crayon de son maître. «
Rue du Chantre, » disait-il, une jeune fille nommée Aurore. Vous eussiez été effrayé de l'expression que prit le visage du bossu. Un feu sombre s'illumina dans ses yeux.
« Il sait cela, » pensa-t-il. « Comment sait-il cela ?»«
Vous comprenez ?» dit Gonzague.
« Oui, je comprends, » répondit Pérol.
« C'est de la chance. »
« Les gens de ma sorte ont leur étoile, » reprit Monsieur de Gonzague.
« Où mettra-t-on la jeune fille ?»«
Au pavillon de Dona Cruz. »
Le bossu se toucha le front.
« La gitana, » murmura-t-il. « Mais elle-même, comment a-t-elle pu savoir ?»«
Il faudra tout simplement l'enlever ?» disait en ce moment Pérol.
« Pas d'éclat, » repartit Gonzague. « Nous ne sommes pas en position de nous faire des affaires. »
De la ruse, de l'adresse. C'est ton fort, ami Pérol. Je ne m'adresserai pas à toi s'il y avait des coups à donner ou à recevoir. Notre homme doit habiter cette maison. J'en ferai la gageure.
Lagardère ?
Murmura le factotum avec un visible effroi.
Tu ne l'affronteras pas, ce matamore.
La première chose, c'est de savoir s'il est absent. Et je parierais bien qu'il est absent à cette heure.
Il aimait boire autrefois.
S'il est absent, voici un plan tout simple. Tu vas prendre cette carte.
Gonzague mit dans la main de son factotum une des deux cartes d'invitation au bal du régent, réservée pour Saldagne et Faenza.
Tu te procureras, poursuivit-il, une toilette de bal fraîche et galante, pareille à celle que j'ai commandée pour Dona Cruz. Tu auras une litière toute prête dans la rue du Chantre, et tu te présenteras chez la jeune fille au nom de Lagardère lui-même.
C'est jouer sa vie à père ou non, dit Monsieur de Pérol.
Allons donc. Rien que la vue de la robe et des bijoux la rendra folle. Tu n'auras qu'un mot à dire. Lagardère vous envoie ceci et vous attend.
Mauvais expédient, dit une voix aigrelette entre deux. La jeune fille ne bougera pas.
Pérol sauta de côté. Gonzague mit la main à son épée.
As pas pur, fit de loin Cocardas.
Vois donc, frère Passepoil. « Vois donc ce petit homme !»«
Ah !» répondit Passepoil. « Si la nature m'avait disgracié ainsi, et qu'il fallut renoncer à l'espoir de plaire aux belles, j'attenterais à mes propres jours !»
Pérol se prit à rire, comme tous les poltrons qui ont eu grand-peur.
« Ésope II dit Jonas !» s'écria-t-il.
« Encore cette créature !» fit Gonzague avec humeur.
« En louant la niche de mon chien, « crois-tu avoir acheté le droit de parcourir mon hôtel ? Que viens-tu faire ici ?»«
Et vous ?» demanda effrontément le bossu. « Qu'allez-vous faire là-bas »
C'était là un adversaire selon le cœur de Gonzague.
« Mons Ésope, dit-il en se campant, « nous allons vous apprendre, séance tenante, le danger que l'on court en se mêlant des affaires d'autrui. »
Gonzague regardait déjà du côté des deux braves. Tant pis pour Ésope II, dit Jonas, il s'était avisé d'écouter aux portes. Mais à ce moment, l'attention de Gonzague fut détournée par la conduite bizarre et vraiment audacieuse du petit homme, qui prit sans façon des mains de Pérol la carte d'invitation qu'on venait de lui remettre.
« Que fais-tu, drôle ? » s'écria Gonzague.
Le bossu tirait paisiblement de sa poche sa plume et son écritoire.
« Il est fou ! » dit Pérol.
« Pas tant, pas tant !»
fit Ésope II, qui mit un genou en terre et s'installa le plus commodément qu'il put pour écrire. Il traça rapidement quelques mots au dos de la carte d'invitation.
« Lisez »
fit-il d'un accent de triomphe en se relevant. Il tendit le papier à Gonzague. Celui-ci lut. « Cher enfant, ces parures viennent de moi, j'ai voulu vous faire une surprise. Faites-vous belle !» Une litière et deux laquais viendront de ma part pour vous conduire au bal où je vous attendrai. Henri de Lagardère. Cocardas Junior et frère Passepoil, placés trop loin pour entendre, suivaient de l'œil cette scène et n'y comprenaient rien.
San Dieu, dit le Gascon, monseigneur a l'air d'un homme qui a la berlue.
Mais ce petit bossu, repartit le Normand, regarde donc sa figure. Cette fois comme la première, je soutiens que j'ai vu ces yeux-là quelque part.
Cocardas haussa les épaules.
Je ne m'occupe que des hommes au-dessus de 5 pieds 4 pouces.
« Je n'ai que 5 pieds tout juste, » fit observer Passepoil avec reproche.
Cocardas Junior lui tendit la main et prononça ses bienveillantes paroles.
« Une fois pour toutes, ma caillou, souviens-toi que tu es en dehors. L'amitié, Capédébiou, est un prisme de cristal à travers lequel je te vois tout blanc, tout rose et plus dodu que Cupidon, fils de Vénus sortant du sein de l'onde. »
Passepoil, reconnaissant, serra la main qu'on lui tendait. C'était bien vrai. Gonzague avait l'air d'un homme frappé de stupéfaction. Il regardait Ésope II, dit Jonas, avec une sorte d'effroi.
« Que veut dire cela ? » murmura-t-il.
« Cela veut dire, répliqua le bossu bonnement, qu'avec ce mot décrit, la jeune fille aura confiance.
Tu as donc deviné notre dessein ?
J'ai compris que vous vouliez avoir la jeune fille.
Et sais-tu ce qu'on risque à surprendre certains secrets ?
On risque de gagner gros, répondit le bossu qui se frotta les mains.
Gonzague et Pérol échangèrent un regard.
Mais, fit Gonzague à voix basse, cette écriture.
J'ai mes petits talents, repartit Ésope II. Je vous garantis l'imitation parfaite. Quand une fois je connais l'écriture d'un homme.
Oui, da, cela peut te mener loin. Et l'homme ?
Oh, l'homme ! Interrompit le bossu en riant. Il est trop grand et je suis trop petit. Je ne peux pas le contrefaire.
Le connais-tu ?
Assez bien.
Comment le connais-tu ?
Relation d'affaires.
Peux-tu nous donner quelques renseignements ?
Un seul. Il a frappé hier 2 coups. Il en frappera 2 demain.
Pérol frissonna de la tête aux pieds.
Gonzague dit « Il y a de bonnes prisons dans les caveaux de mon hôtel. »
Le bossu ne prit point garde à son air menaçant et répondit
« Terrain perdu, faites-y des cases et vous les louerez aux marchands de vin. »
« J'ai idée que tu es espion. »
« Pauvre idée. » « L'homme en question n'a pas un écu vaillant et vous êtes riche à millions. Voulez-vous que je vous le livre ?»
Gonzague ouvrit de grands yeux.
« Donnez-moi cette carte, » reprit Ésope II en montrant la dernière invitation que Gonzague tenait encore à la main.
« Qu'en ferais-tu ? »
« J'en ferai bon usage. Je la donnerai à l'homme, et l'homme tiendrait la promesse que je vous fais ici en son nom. Il irait au bal de monsieur le régent. »«
Vive Dieu, l'ami ! » s'écria Gonzague. « Tu dois être un infernal coquin. »«
Oh, oh !» fit le bossu d'un air modeste. Il y a plus coquin que moi.
Pourquoi cette chaleur à me servir ?
Je suis comme cela, très dévoué à ceux qui me plaisent.
Et nous avons l'heure de te plaire ?
Beaucoup.
Et c'est pour nous témoigner de plus près ton dévouement que tu as payé 10 000 écus ?
La niche ? Interrompit le bossu. Pas s'il vous plaît. Spéculation. Affaire d'or.
Puis il ajouta en ricanant.
« Le bossu était mort. Vive le bossu ! Ésope premier a gagné 1,5 million sous un vieux parapluie. Moi, du moins, j'ai mon étude. »
Gonzague fit signe à Cocardas et à Passepoil qui s'approchèrent en sonnant le vieux fer.
« Qui sont ceux-là ? » demanda Jonas.
« Des gens qui vont te suivre si j'accepte tes services. »
Le bossu salua cérémonieusement.
« Serviteur ! Serviteur ! » dit-il. Alors refusez mes services. Mais bon messieurs, ajouta-t-il en s'adressant aux deux braves, ne prenez pas la peine de déménager vos bric-à-brac. Nous ne nous en irons point de compagnie.
Cependant, fit Gonzague d'un air de menace,
il n'y a point de cependant. Diable, vous connaissez l'homme aussi bien que moi. Il est brusque, excessivement brusque, on pourrait même dire brutal. S'il voyait derrière moi ces tournures de gibier de potence...
Péquer ! Fit Cocardas indigné.
Peut-on manquer ainsi de politesse ? Ajouta frère Passepoil. Je prétends agir seul, ou ne pas agir du tout, acheva Ésope II d'un ton péremptoire.
Gonzague et Pérol se consultaient.
Tu tiens donc à ton dos ? Fit le premier en raillant.
Le bossu salua et répondit.
Comme c'est brave à leur rouillarde ! C'est mon gagne-pain. Il me répond de toi, prononça Gonzague en le regardant fixement. Tu m'entends? Sers-moi fidèlement, et tu seras récompensé. Au cas contraire...
Il n'acheva pas, et lui présenta la carte. Le bossu la prit, et se dirigea vers la porte à reculons. Il saluait de trois pas en trois pas, et disait
« La confiance de Monseigneur m'honore. Cette nuit, Monseigneur entendra parler de moi. »
Et comme sur un signe sournois de Gonzague, Coquardas et Passepoil allaient l'accompagner,
« Doucement, fit-il, doucement, et nos conventions. »
Il écarta Coquardas et Passepoil d'une main qu'ils n'eussent certes point crue si vigoureuse, salua une dernière fois profondément, et passa le seuil. Coquardas et Passepoil voulurent le suivre. Il leur jeta la porte sur le nez. Quand ils se remirent à sa poursuite, le corridor était vide.
« Et vite !» fit Monsieur de Gonzague en s'adressant à Pérol. « Que la maison de la rue du Chantre soit cernée dans une demi-heure, et le reste comme il a été convenu. »
Dans la rue Quincampoix, déserte à cette heure, le bossu s'en allait trottinant.
« Les fonds étaient en baisse, murmurait-il. Du diable si je savais où prendre nos cartes d'entrée et la toilette de bal. »
Fin de la deuxième partie.